Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde, comme chaque dimanche, l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Une émission en direct de l'espace Cardin, théâtre de la ville à Paris, mais sans public, sauf celui qui nous regarde sur la chaîne YouTube du théâtre et en présence de notre cher Matteo Caranta. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Debout sur la scène de l'espace Cardin, théâtre de la ville, pour nous présenter la Madeleine du jour, le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ?
Eh bien, j'ai rencontré le comédien Michel Villermoz qui m'a parlé, ça tombe bien, d'un plat du dimanche.
Et c'est d'un autre plat du dimanche et d'ailleurs de chaque jour que nous allons parler parce que c'est une forme liquide que va prendre notre plat du jour. Nous allons nous pencher en effet sur un plat de saison qui se mange le plus souvent chaud et qui fait de toutes sortes de légumes est à la fois réconfortant, roboratif, bon pour la santé et même, si, gourmand.
On m'a dit mange ta soupe, mange ta soupe, tu sais pas ce que tu loupes, mange ta soupe, on m'a dit mange ta soupe, coûte que coûte, et sans l'ombre d'un doute, soupe aux choux, soupe aux potirons, soupe aux petits pois ou à l'oignon, soupe au lait ou soupe en sachet, soupe d'émotion, soupe perfusion, soupe de fruits verts, soupe de fruits de mer, soap opéra, c'est populaire. Avec des yeux dans le courbouillon qui regardent la télévision. Crème de volaille sur canapé ou pointe d'asperge au velouté. Des consommés tout préparés au rayon des supermarchés. Coulis de pruneau ou gazpacho qui dégouline de la radio. Scoop au canard, soupe à la une. En première page, les grosses légumes.
Deux invités avec nous aujourd'hui pour parler de la soupe. Non pas Tom Novembre qui chante « Mange ta soupe », mais Julien Ponce-Blanc, un amateur, voire un amoureux des soupes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Journal d'un amoureux des soupes, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions La Martinière. Et puis vous êtes créateur des potages Green Shoot.
Exactement.
À côté de vous se trouve Éric Birloise. Bonjour Éric.
Bonjour Caroline Brouet.
Ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation, vous avez écrit une petite et grande histoire des légumes aux éditions Kouaï. Évidemment, les légumes qui se mangent notamment en soupe, nous y reviendrons tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, c'est à vous que je vais poser la première question. Éric Birloise, parce que on se rend compte depuis quelques temps que les légumes ont la cote. C'est des succès de librairie. Hein. Je ferai à la fin de cette émission un petit tour d'horizon des nouveaux livres qui parlent des légumes. Il y en a un certain nombre. Et ça n'a pas toujours été le cas dans la cuisine traditionnelle française qui ne leur conférait jusque, disons, il y a peut-être 3-4 ans, peut-être 5-10 ans, je ne sais pas, vous allez nous le dire, en tous les cas, un rôle d'accompagnement. Les choses sont-elles en train de se renverser et pour quelles raisons ?
Oui, je pense que les choses sont effectivement en train de se renverser. Alors c'est vrai que si on fait très rapidement un parcours dans l'histoire de notre cuisine, de notre alimentation, à la fin du Moyen-Âge, enfin pendant tout le Moyen-Âge même, on peut dire, les légumes sont totalement méprisés. Pas par ceux qui en mangent, bien sûr, les paysans, mais par les élites sociales qui considèrent que ces légumes poussant dans la terre, sous la terre pour certains, et étant des nourritures de paysans, vraiment n'ont pas la cote. On va donc vraiment attendre longtemps pour que les légumes soient réhabilités, un petit peu à la Renaissance, avec Louis XIV et son potager du roi, mais finalement ça fait, moi je dirais, ça fait 20 ans qu'on commence à entendre cette petite musique, au moins 5 fruits et légumes par jour, et on est quand même encore très loin du compte, on pourra donner les chiffres, mais c'est vrai que depuis quelques années, les légumes ont la cote, d'abord parce qu'on découvre qu'ils sont bons, bien évidemment, et puis je crois qu'il y a aussi le fait que, comme on parle de plus en plus d'une alimentation durable, d'une alimentation moins carnée, eh bien il faut bien mettre quelque chose dans l'assiette à côté, pour remplacer ce que l'on va diminuer, la viande, ou les produits animaux d'une manière générale, et les légumes, mais finalement, ils reprennent un petit goût de nouveauté, alors qu'ils ont évidemment toujours existé.
Julien Ponce-Blanc, c'est un peu le même phénomène finalement pour la soupe qui accompagne tout simplement le mouvement de redécouverte en tout cas des légumes et des légumes anciens. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. C'est un peu pareil avec la soupe parce que la soupe a pendant très longtemps pas eu très bonne presse, en particulier auprès des enfants, mais pas seulement. Ça fait penser à l'hôpital, ça fait pas rêver la soupe.
Non, et puis c'est vrai que dans l'imaginaire populaire et puis dans la culture collective. Il y a des expressions qu'on connaît bien, gros plein de soupe, soupe à la grimace, soupe au lait, etc. Donc il y a tout un champ sémantique qui n'est pas forcément très favorable à la soupe. Or, c'est vrai, et je le constate aussi, cette image est en train de bien changer. Lorsque j'ai créé mon entreprise il y a une quinzaine d'années, j'en veux pour exemple qu'on me regardait avec des yeux écarquillés quand je disais que je faisais de la soupe, et désormais on me dit « Ah, t'as trouvé le filon, c'est le bon truc, etc. » Mais je dis « Cet amour, il est plus ancien, il est plus viscéral, il est pas du tout pragmatique, mais c'est une passion. »
Mais d'où vient cette passion pour la soupe? C'est assez rare quand même.
Alors, c'est vrai que comme ça, sur le papier, ça peut paraître étonnant. Je crois d'abord que, un petit peu comme tout un chacun, comme beaucoup d'entre nous, j'ai une histoire personnelle avec la soupe.
Vous êtes tombé dans la marmite tout petit?
Voilà, en étant enfant. D'abord parce que j'avais une arrière-grand-mère qui cuisinait tous les légumes du jardin et on faisait toutes les choses nous-mêmes avec le pigeonnier, le poulailler, etc. Donc évidemment la soupe, bien sûr, et mon sud-est natal, c'était en particulier la soupe au pistou. Et puis c'est vrai que j'étais transformé en activité professionnelle et j'ai constaté quelque chose de fabuleux, c'est que la soupe, c'est une passion qui est inextinguible parce que on n'en a jamais fini d'en faire le tour.
Est-ce que malgré tout, vous qui êtes créateur d'une entreprise qui vend des soupes en briques, même si elles sont fraîches, est-ce que malgré tout, Julien Ponceblanc, les soupes en briques, ça n'est pas incompatible avec la santé? On dit que les soupes industrielles, alors elles, pour le coup, n'ont toujours pas bonne presse, même si elles se sont beaucoup vendues pendant le premier confinement, c'est facile à chauffer, bien sûr, mais c'est le résultat aussi d'une enquête de 60 millions de consommateurs sur 28 marques de soupes préfabriquées. C'est pas très bon.
Alors, j'ai envie de dire, il y a deux salles, deux ambiances. Dans les années 60, on a eu recours très largement au procédé de stérilisation, qui nous a permis de mettre dans des briques qu'on connaît bien et qu'on retrouve au rayon épicerie, des produits dont la qualité gustative et la composition est peut-être discutable. Beaucoup d'adjuvants, des texturants, amidon de riz et autres, qui étaient des bonnes ficelles d'industriels pour faire du potage à bas prix. Il faut dire que d'autres acteurs sont intervenus, et je crois qu'on peut dire que Mama Green Shoot, on fait partie de cette mouvance. On a essayé d'apporter une autre vision et de changer les choses de l'intérieur. D'abord, avec une nouvelle technologie qui est la flash pasteurisation, qui est un procédé beaucoup plus élaboré qui permet de mieux préserver nutriments et vitamines. Et puis en retirant évidemment toutes les choses un peu bizarroïdes qu'on a pu imaginer ajouter à nos bonnes soupes, alors que des ingrédients naturels, sains et des bons légumes...
Vous tournez vers l'ouest pour bien confirmer.
...suffisent très largement à faire des très bonnes soupes.
Est-ce que vous êtes un amateur de soupe?
Oui, j'adore ça. Oui. Je crois que les premières soupes, en écoutant Julien, je repensais aux premières soupes que j'ai appris à faire. C'est la très banale mais délicieuse soupe aux poireaux, pommes de terre... Et la soupe à l'oignon. J'ai une passion pour la soupe à l'oignon.
Pas de banalité dans les soupes.
J'adore ça.
Je disais qu'il n'y a pas de banalité dans les soupes, en fait. Finalement, les choses simples sont souvent les meilleures.
Julien Ponceblanc, c'est un plat d'hiver quand on a besoin de chaleur, quand on a besoin de réconfort.
C'est un plat dont moi j'aime à dire qu'il est de. Nous sommes des.
Toutes les saisons.
Des quatre saisons, évidemment, parce que c'est ça qui fait aussi toute la richesse de la soupe. On parlait de la sémantique qui est un petit peu, des fois, dans l'imaginaire populaire un peu restreint, mais en fait, on peut parler de bouillon, on peut parler de velouté, on peut parler de consommation. Mais on peut parler de potage.
Tout ça, c'est la même chose.
Gazpacho, eh bien non, justement, c'est ça qui fait toute la richesse de ce produit-là et qui traverse les saisons. Et j'ai même présenté dans mon livre une soupe tiède, d'ailleurs, pour un petit peu comme un petit pied de nez, mais pour dire que là aussi, c'est pas forcément ou chaud ou froid, mais qu'on peut trouver une manière de consommer de toutes les façons possibles.
En ce moment, donc janvier, février, mars, à part... Le chou, le poireau, la pomme de terre, dont parlait Éric Bierloez, les carottes, on trouve quoi?
Les navets, les panais, il y a plein de choses formidables. Je pense que Éric nous dira encore plus de manière encore
plus précise
que moi. Ah oui, bien sûr.
Ah oui.
Les courges qui aussi ont tendance à traverser, le butternut est là aussi, donc les associations sont sans limite.
Éric Bierloez.
Oui, il y a beaucoup de... Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce qu'on a cité, on parlait des choux, on parlait des...
des navets, des panais, des pommes de terre.
Des panais, c'est qu'en fait, finalement, ces légumes, on les connaît depuis toujours. C'est-à-dire, ce sont des légumes qui poussaient spontanément, peut-être pas tous en France, mais au moins en Europe. Et finalement, il y en a pas tant que ça. Hein. Dans le livre que je consacre aux légumes, on parle des légumes venus du Nouveau Monde, on parle des légumes venus d'Asie. Mais c'est vrai que le chou, la bête et la betterave, qui sont d'ailleurs la même espèce, les navets... les carottes que l'on a citées, et puis les endives, alors nées beaucoup plus récemment, au 19e siècle.
On ne fait pas de soupe à l'endive.
Ça, c'est de l'indigène.
On fait une crème, peut-être.
Si, si, ça existe, oui. Et j'en ai mangé de très bonnes, veloutées d'endives.
Oui, exactement.
Pardon, je vous ai interrompu, Eric Bialy.
Non, non. Et donc, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, la soupe, alors il y a toute cette dimension affective, Julien parlait de son arrière-grand-mère, évidemment, et puis c'est aussi une manière de découvrir les aliments, et en particulier les légumes, parce que, eh bien, la soupe, c'est on peut mettre finalement un petit peu ce que l'on veut. Et moi, j'aime à penser que, alors l'homme n'a pas toujours mangé des soupes, mais dès lors qu'il a su, qu'il a domestiqué le feu, donc c'était il y a peut-être 400 000 ans, peut-être plus, mais au moins depuis 400 000 ans, eh bien, il a jeté dans une marmite, entre guillemets, ce qu'il...
Une soupière.
Voilà, une soupière, alors qu'il n'était pas faite de poterie encore, mais de carapace de tortue ou de choses comme ça.
Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme potage. Pardon, je ne
oui,
veux
oui.
pas prendre la place d'Éric, mais sur le sujet de la soupe en particulier, d'ailleurs, il y a une confusion qui est faite souvent entre soupe et potage. Or, potage, ça vient du terme pot, dans lequel on
Exactement.
Fait cuire les aliments, qui était plutôt un ragoût d'ailleurs. Et puis, par extension, au fil du temps, c'est devenu donc le produit. Mais au départ, d'ailleurs, la soupe, c'est quelque chose de très différent. C'est le morceau de pain qu'on trempe dans le liquide, parce que dans l'histoire humaine, et on m'arrêtera si je me trompe, mais l'eau a pas toujours été de très bonne qualité, on risquait d'attraper des maladies, donc on la faisait bouillir, et donc on faisait donc ce qu'on appelle maintenant des soupes, mais c'était plutôt un bouillon dans lequel on trempait ce morceau de pain.
Et d'où l'expression, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure des expressions, être trempé comme une soupe, c'est-à-dire comme la tranche de pain sur laquelle on verse ce bouillon fumant, odorant, réconfortant dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, les termes, c'est très intéressant, parce que potager, vous l'avez dit, Julien, les potages, c'est ce qu'on fait cuire dans des pots. Le terme de potager, au départ, c'est pas le coin de jardin dans lequel on fait pousser ses légumes, c'est le cuisinier qui, dans les cuisines aristocratiques du Moyen-Âge, s'occupe des potages, donc pas seulement des soupes, de tous les plats que l'on fait dans des pots, qui peuvent être de la viande, qui peuvent être du poisson, etc. Et puis après, le mot potager devient le fourneau qu'on remplit de bois et on fait chauffer, donc, c'est la cuisinière, c'est l'ancêtre de la cuisinière.
Et d'ailleurs, par extension, il faut parler du terme de soupière, qui est apparu finalement assez récemment, vers le 17e, début du 18e, quand la soupe arrive à la cour et que ça devient un produit noble. Alors on lui fait un contenant très spécifique, qui est la soupière. On s'imagine bien les scènes dans lesquelles duc, marquis, le roi, etc. Vont commencer à s'attabler autour de cette belle soupière, celle qu'on connaît de peut-être nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont comme ça cette prestance qu'on amène au centre de la table.
Éric Bialoez, autrefois, dans les campagnes, on pouvait manger de la soupe au petit-déjeuner, d'ailleurs à chaque repas, hein, on parlait même du souper.
Oui.
Aujourd'hui, on mange la soupe soit comme plat principal, soit comme entrée. Est-ce que ça a toujours été le cas, quand même ?
C'est vrai que la soupe était autrefois vraiment l'aliment de base. Donc vous avez raison de dire que c'était à tous les repas, même au ce qu'on appelle aujourd'hui évidemment le petit déjeuner, parce que c'est le moyen d'avoir quelque chose de chaud dans lequel on a donc ses légumes, mais aussi peut-être de temps en temps, quand on a les moyens, un morceau de viande, etc. Donc la soupe, c'est vraiment, pour moi, la base de l'alimentation, c'est la base de la culture alimentaire, parce que au moins les légumes, on a ça. Et puis évidemment, à côté des céréales, sous forme de bouillie et de pain.
Alors, on le voit dans votre journal d'un amoureux des soupes, Julien Ponceblanc, il en existe de toutes sortes, en toute saison, mais il y a quand même un légume incontournable, c'est l'oignon.
Ah, l'oignon, oui, c'est vrai, c'est un peu le... Le second rôle n'arrive pas à prendre la première place, mais sans qui rien ne serait possible. Donc c'est vrai que moi j'ai une acquaintance particulière avec ces oignons qui ont cette capacité magique à relever le goût de la soupe tout de suite comme ça, comme par un petit tour de passe-passe. Et alors on lui a quand même consacrer une soupe où il est la vedette, c'est évidemment la soupe à l'oignon, et je n'ai pas manqué la présenter dans mon livre, parce que ça rappelle pour ma part mes origines bourguignonnes, le bon bourguignon, les fins de soirée aussi, où on, pour se restaurer, on se prépare une soupe à l'oignon.
Et comme vous avez conscience que tout le monde n'est pas amateur de soupe, même si elle a la côte, parce que les légumes redeviennent à la mode aussi, Julien Ponceblanc, vous avez eu la bonne idée de mettre dans votre livre un certain nombre de recettes qui sont des recettes très personnelles, avec des titres très personnels qui sont au gré de votre humeur. J'en donne juste un, parce que c'est une forme d'hommage, la soupe humeur noire d'une journée où rien ne va. Il se trouve que c'est du radis noir, du chou-fleur et des baies roses, mais que c'est un peu notre clin d'œil à l'ami acteur Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés cette semaine.
On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif, vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière, et puis à un autre d'apporter de la limonade, ce qui permet de faire des panachés.
Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça. On voulait juste vous dire...
Attendez, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai pas fini. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les mignardises. On oublie aussi les mignardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme poire, pomme fraise, pomme banane.
Et comme il n'y a pas que les pommes poires, les fraises, les fruits et les légumes, mais il y a aussi de la viande, et nous avons Mathéo pour ça.
Oui. Moi, cette semaine, pour la Madeleine, j'ai rencontré Michel Vuillermoz de la Comédie Française, que l'on peut voir sur nos écrans malgré la fermeture des salles de théâtre, puisqu'il est à l'affiche d'une série OVNI qui nous plonge avec humour dans un service d'études du paranormal dans les années 70. Et puis, la Comédie Française n'est pas en reste, puisque Michel Vuillermoz et ses autres pensionnaires, compagnons sociétaires, ont fait des lectures tous les soirs cet automne de La Recherche du Temps Perdu de Proust. Et puis, vous pouvez aussi voir sur les plateformes vidéo un petit programme, les 5 premières minutes, où les comédiens de la troupe racontent un moment fondateur ou exemplaire de théâtre qu'ils ont vécu. Alors pour la Madeleine, c'est un goût fondateur qu'on demande à nos invités. Eh bien, Michel Vuillermoz est remonté à ses très sérieuses années de cyclisme. Oui, Michel Vuillermoz aurait pu être cycliste.
Ma Madeleine, c'est le poulet frite. Le rituel du dimanche... où mes parents, en général, prenaient 2 poulets. Ils en prenaient un pour eux, j'étais fils unique, et un pour moi. Je faisais du cyclisme quand j'étais jeune. Le dimanche, c'est les courses, le matin. Après, on rentre, donc j'avais très faim. Voilà, j'ai ce souvenir où j'attendais le poulet frite avec impatience. Puis, comme on faisait du cyclisme la semaine, on était plutôt dans un régime assez diététique, on va dire. Donc les frites, le gras, le beurre, le sucre est plutôt interdit, mais le dimanche, on avait droit à un écart par semaine. Et c'était après la course. C'était un bon poulet de Bresse. D'abord, il est doré, il est très légèrement fumant. Et moi, mon morceau préféré, je commençais toujours par le blanc. Voilà, donc on enlève délicatement le maximum le blanc du poulet, avec sa peau bien sûr très légèrement croustillante, avec sa cuillère à soupe de jus du poulet, et puis après les 2 cuisses, et je finissais par les 2 ailes. Donc je me mangeais un poulet de Bresse, mais quand on a 18-19 ans, un poulet ça fait pas peur. Donc les frites, plutôt un saut, enfin le plus possible, dans le gras, au four, plutôt grosses frites, un peu grillées, mais de la très bonne pomme de terre, style Annabelle ou Celtiane, très très bien cuite au four, longtemps, donc ça fond dans la bouche, c'est un peu grillé, c'est très gras, c'est dans le beurre du poulet, et donc après, je se déplace difficilement de la table à un canapé. Voilà, j'ai ce souvenir-là du dimanche du poulet frites. C'est un des grands, grands moments de bonheur gustatif, mais qui ressemblait... Enfin, c'était pas très raffiné, vous voyez. C'est puisque je vous parle de frites dans le gras, plutôt quelque chose de l'ordre de l'ogre. Ouais, de l'ogre. J'ai supprimé le vélo, mais les courses, mais j'ai continué à faire les courses, oui, sur le marché, bien sûr. Poulet frites, pas tous les dimanches, mais tous les 15 jours, oui. Mes filles adorent ça, se régalent avec le poulet frites du dimanche. Ouais, c'est un rendez-vous.
Tout ça, c'est du poulet.
C'est du poulet qui va très bien, Éric Bialouez, avec toutes sortes de légumes. On peut faire poulet frites et légumes.
Ah oui, je crois que là, il n'y a pas de limite à l'imagination.
Aucune.
Tout à fait.
Aucune. Mais peut-être d'ailleurs, on peut faire appel à des légumes dits anciens. Vous disiez, il y a des tas de légumes comme les panais, les pommes de terre qu'on connaissait depuis toujours. Il y en a qu'on dit anciens et qu'on redécouvre ça aussi aujourd'hui, puisqu'on redécouvre qu'ils étaient bons, souvent associés à des périodes de disette, souvent associés à la guerre. C'est pour ça que nos grands-parents n'aimaient pas trop en manger. Je pense aux tourbillambours,
oui,
aux rutabagas, aux crônes, aux salsifis, aux cerfeuils et justement aux panais, dont vous parlez beaucoup dans votre livre « Petite et grande histoire des légumes ».
Oui, oui, bien sûr, on les redécouvre depuis quelques années, grâce d'ailleurs à certains chefs qui les ont redécouverts et finalement, d'une certaine manière, popularisés. Et c'est vrai que ces légumes anciens... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces légumes anciens, ils sont évidemment... Ils ont été sélectionnés, ils n'ont pas tout à fait le même goût qu'ils avaient quand nos ancêtres les consommaient. Hein. Évidemment, on a peut-être parfois tendance à penser que c'était mieux avant, ça pouvait être mieux sur certains points, mais on avait aussi des légumes qui étaient extrêmement amers, qui parfois étaient même un peu toxiques, qui n'avaient pas les... Voilà, il faut bien prendre en compte tout ce travail acharné de génération et de génération d'horticulteurs, de maraîchers, sélectionneurs, qui nous ont permis d'avoir les fruits et les légumes, puisqu'on parle des légumes que l'on a aujourd'hui. Donc ces légumes anciens d'aujourd'hui, ils ont un aspect quand même un peu différent de ce qu'ils étaient il y a quelques siècles.
Et vous parliez des chefs qui remettent au goût du jour ces légumes anciens. Nous en avons un au téléphone, le chef 3 étoiles, Régis Marcon, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous, même s'il est loin de nous. Bonjour Régis Marcon.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous faites paraître un précieux livre de légumes aux éditions de La Martinière. 65 légumes, 110 gestes techniques et 110 recettes. Une sorte de synthèse de ce dont nous avons parlé, puisque vous parlez des topinambours à l'instant, Éric Bialouez. Eh bien, effectivement, vous, Régis Marcon, vous proposez un velouté de topinambours aux graines de quinoa, ce qui rejoint aussi notre amoureux des soupes, Julien Ponceblanc. Dites-nous pourquoi c'est un bon alliage, hein, le topinambour avec les graines de quinoa?
En fait, ce que j'ai voulu déjà depuis 4 livres, puisqu'on a démarré il y a déjà quelques années avec les champignons, les herbes, les légumineuses, les céréales, c'est de donner à chacun et à chacune les moyens de faire des recettes où on associe les légumes, mais pas que les légumes, il y a aussi les céréales, les légumineuses et... C'est pas nouveau, mais en même temps, quand vous regardez les magazines ou surtout les livres de cuisine quand on se prépare à être cuisinier, on a souvent une protide et un légume. Et là, ce que je voulais dans ce livre, c'est associer, faire vraiment des plats de légumes. Et je croustille déjà l'invité que je viens d'entendre, le poulet frites, forcément, ça n'empêche pas des bons... D'abord, c'est la mémoire qui rentre en ligne de compte, et puis des bons compléments. Le poulet frites, c'est extraordinaire quand c'est bien préparé, avec des bonnes pommes de terre, bien entendu.
On parlait, en vous attendant, et Régis Marcon tout à l'heure, des différences entre soupe, potage, crème, velouté, consommé. Vous en proposez un certain nombre dans votre livre de légumes. Quelle différence faites-vous?
Alors, bien sûr, on est régi, bien que ça change un petit peu par... Auguste Escoffier, qui avait déjà bien délimité, réglé un petit peu ses appellations. Pour être simple, un potage, c'est à base de légumes, bien sûr, c'est mixé. On peut parler aussi de potage taillé quand il est mixé, quand on rajoute, il y a des légumes qui restent entiers. C'est d'ailleurs souvent les potages que je préfère. On parle de crème quand on ajoute tout simplement de la crème, et on parle de velouté quand on ajoute, alors là, c'est le summum. Forcément, on n'en mangerait peut-être pas tous les soirs. La crème et le jaune d'œuf, bien entendu. Et puis à part ça, vous avez les consommés qui sont les bouillons clairs.
On peut regarder dans votre livre et déguster un velouté glacé aux fans de radis et ortie. C'est comme une invitation à ne pas gaspiller, je suppose. Et puis pour la saison, le velouté de carottes à l'orange, le velouté de potimarron au curcuma ou encore le potage vélave aux lentilles. Parce que quand même, Régis Marcon, la crème glacée de concombre à la menthe, la crème de courgette à la menthe, lentilles beluga, ça n'est pas vraiment de saison. Or, il faut aussi suivre les saisons, si je vous écoute bien.
Comme tous les légumes, je crois que c'est ce qui fait l'intérêt de tous les légumes, c'est qu'on a un regard automatiquement sur la saison. Et pour se fier aux saisons, quel est le meilleur moyen? Eh ben, écoutez, moi, j'invite tous vos invités à aller au marché, ils le font très certainement. Et là, vous êtes près de la nature, ou cultiver votre jardin, tout simplement, c'est encore mieux.
Alors, il y a beaucoup d'autres choses hein, dans ce livre consacré aux légumes, Régis Marcon, qui donne à la fois des conseils pour cuisiner les légumes, l'origine historique et géographique de chaque légume, qui détaille photos à l'appui les gestes techniques pour blanchir les épinards, ciseler les échalotes ou encore effiler les haricots. Propose également 110 recettes qui excitent les papilles, qui ouvrent l'appétit, comme la déclinaison de betterave à la fleur d'oranger, foie de veau à la lyonnaise ou la blanquette de blette à l'ancienne, trois riz de Camargue ou encore la cric ardéchoise de chez vous, ou le tian de courgette à la marjolaine et fleurs de courgette farcies. Mais attention, ça, c'est pas vraiment de saison. Bref, c'est un livre qui donne vraiment envie de cuisiner et de manger, accompagné des deux livres de nos invités du jour. Merci beaucoup à vous, Régis Marcon, d'avoir participé à cette émission ce midi.
Si je peux rajouter, c'est aussi une histoire, vous savez, les légumes. J'ai la chance, depuis quelques mois, en dehors de mon travail, de cuisiner pour la cantine de l'école, et on leur explique les légumes. Et j'ai l'impression de passer un petit peu après les parents qui racontent une histoire pour aller se coucher, pour une petite histoire qu'on raconte comme ça. Et quand on raconte une histoire sur les légumes, je peux vous dire que les yeux s'émerveillent et ils le retiennent.
Oui, c'est exactement ce qui se passe aussi quand on lit la petite et grande histoire des légumes d'Éric Bialouès, qui est notre invité du jour. On va peut-être terminer quand même, Julien Ponceblanc, par une recette de soupe pour ce midi ou pour ce soir. Alors, peut-être pas la soupe lendemain, lendemain de fête, hein, c'est pas vraiment d'actualité, mais la soupe coup de fouet de Popeye ou la soupe de la grasse matinée?
Oui, alors il y en a une qui me tient un peu particulièrement, qui est dans le début du livre et qui est la soupe de la grasse matinée. Et je trouve que finalement, ça c'est assez d'actualité quand même, en particulier pour un dimanche, et peut-être certains auditeurs se sont réveillés en nous écoutant. Donc c'est une soupe avec petits pois, wasabi et pesto d'edamame.
Qu'on verra dans votre ouvrage, le journal d'un amoureux des soupes. Et je disais en ce début d'émission que je ferai un tout petit tour d'horizon pour accompagner vos sorties de livres. Tour de table des livres dédiés aux légumes en dehors des vôtres. Il y a les légumes d'hiver de Delphine Brunet aux éditions 180 degrés. Légumes, recettes et techniques de l'école Ferrandi chez Flammarion. Le végétal de William Ledeuil à la Martinière. Flévor de Yotam Ottolenghi chez Hachette Cuisine, ou encore le potager d'Infrimeur de Xavier Mathias Terre Vivante. Tout cela, nous le mettrons bien entendu sur notre site franceculture.fr à la page des bonnes choses. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre amour des légumes et de votre amour des soupes. À très bientôt. Un grand merci à l'équipe qui m'aide comme chaque semaine à préparer cette émission. Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Benjamin Perru, Sébastien Huel, Kevin Delcourt et Louison Soulignac étaient nos techniciens du jour, accompagnés des équipes techniques du Théâtre de la Ville que nous remercions comme chaque fois que nous sommes ici au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Nous vous souhaitons tous un excellent dimanche à l'écoute de France Culture et dans un instant, ça sera le journal suivi de Signes des Temps par Marc Witzmann.